Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Guillaume Néry est sans doute la réincarnation d'un poisson, les branchies en moins. En apnée pendant plusieurs minutes, il descend à plus de 120 mètres de profondeur. Pour le défi, pour la performance, mais aussi pour l'extase de se mouvoir dans l'élément liquide sans contrainte. Il vole sous l'eau, il plonge dans les entrailles des océans. L'apnée, c'est une vocation, presque une religion, avec ses côtés mystiques. Pour Guillaume Néry, qui est aujourd'hui mon invité dans Vie d'aventure. Bonjour Guillaume Néry.
Bonjour.
Est-ce que tu es aujourd'hui le successeur de Jacques Mayol, l'apnéiste qui a inspiré l'histoire du Grand Bleu, le film événement de Luc Besson?
Oula, c'est une, je pense, bien trop grande responsabilité, bien trop grande tâche à assumer pour mes petites épaules. Et je pense que je manquerais d'humilité et de réalisme si je répondais par l'affirmative, parce que il y a eu entre Jacques Mayol et moi aujourd'hui une succession de grands champions et de personnes qui ont amené l'apnée à se développer de manière mondiale aujourd'hui. Et moi, je suis un héritier, un des héritiers, et je perpétue ce mouvement qu'a lancé Jacques Mayol, ainsi que d'autres pionniers de la discipline. Le premier souvenir que j'ai du visionnage de ce film, c'était un jour de pluie à l'école, où je devais être en CM1 ou en CM2. Et quand il pleut, on peut pas faire sport à l'extérieur. Et donc, on avait remplacé ça par une session dans une pièce obscure. On avait transformé la salle de classe en salle de cinéma et on avait vu le Grand Bleu. Et je m'en souviens, donc du coup, ça m'a forcément marqué de ce moment précis, mais ça n'a pas déclenché en moi derrière l'envie de plonger en apnée ou il n'y a pas eu de déclic à ce moment-là. Moi, je suis né à Nice, donc tous les étés, comme tous les enfants niçois, j'étais au bord de la mer. J'ai toujours eu pour habitude d'avoir pas le masque tuba et j'ai toujours aimé quitter la surface, descendre, ne serait-ce qu'à 1, 2, 3 mètres. Et j'étais assez attiré, fasciné par cette idée de descendre. Mais ça s'arrêtait à un fantasme de gosse qui grandit au bord de la mer.
Alors Guillaume, à quel moment tu commences véritablement l'apnée ?
Je dirais que c'est à l'âge de 14 ans, quand je découvre pour la première fois que j'ai des capacités à retenir mon souffle. Mais cette première rencontre, elle s'est faite en dehors de l'eau. C'était avec un ami dans le bus pour passer le temps. Et j'ai perdu un défi avec lui où on s'affrontait l'un et l'autre à savoir qui pouvait tenir le plus longtemps possible. Je me rappelle encore du chiffre bien précis. Lui, il avait tenu 2 minutes 09 et moi 1 minute 30. Et en fait, cette défaite a titillé mon orgueil. Et derrière, je me suis entraîné chez moi, dans mon lit. Et au fur et à mesure des jours, des essais, des tentatives, j'ai réalisé en fait que mon corps était capable de tenir bien plus longtemps. Et j'ai été fasciné par cette découverte des capacités incroyables du corps humain. Je faisais déjà pas mal de sport, des sports d'extérieur, des sports de plein air. Et j'étais très attiré par l'idée de l'exploration. J'aimais faire de la randonnée, j'aimais monter au sommet des montagnes. Je rêvais de voyager et d'aller explorer le monde. Et en réalisant ces apnées, je découvrais l'exploration intérieure, l'exploration du corps. Et puis un jour, j'ai fait le pont entre mes apnées dans le lit et et la mer Méditerranée en visionnant un reportage qui dressait le portrait de Umberto Pellizzari. Donc Umberto Pellizzari, lui, je dirais qu'il peut être considéré comme le fils spirituel de Jacques Mayol. C'est vraiment celui qui a développé la pratique de l'apnée et l'a fait connaître après la sortie du film Le Grand Bleu dans les années 90. Et je vois ces images. Et je reste complètement subjugué. Donc moi, mon coup de foudre visuel, ça n'a pas été le Grand Bleu, ça a été ce coup de foudre sur les records d'Umberto Pellizzari. Et là, je me dis, ce que je fais dans mon lit, finalement, ça a l'air d'être vachement plus sympa quand on le fait dans l'eau. Et là, ni une ni deux, je prends mon masque, on me prête une paire de palmes, et avec mon meilleur ami, on va sur la promenade des Anglais à Nice. Et là, j'ai vraiment cet attrait qui est en train de naître de la profondeur. Et on peut dire vraiment que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic.
C'est pas courant, Guillaume, pour un adolescent de se tourner vers cette discipline quand même un peu austère, même si elle a découvert des fonds marins.
Je dirais qu'à l'époque, c'était vraiment pas courant. Il y avait quasiment aucun reportage autour de l'apnée. Et donc, c'était un sport qui n'était pas développé, il n'y avait pas de club. On était vraiment au balbutiement de l'activité. Et donc, déjà, s'intéresser à l'apnée, quel que soit son âge à cette époque, c'était paraître marginal et être un original. Alors, en plus, en étant un adolescent, c'est clair que là, c'était, même dans le club d'apnée, quand je suis arrivé pour la première fois en 1997, on m'a regardé avec des grands yeux, ils se sont tous demandé, mais comment j'avais pu entendre parler de l'activité et comment j'avais pu me débrouiller pour les rejoindre. Aujourd'hui, en 2020, il y a beaucoup d'adolescents et beaucoup de jeunes qui, via les réseaux sociaux, via le développement de l'accès à tous les médias auxquels on a accès aujourd'hui, ont vraiment entendu parler de l'apnée. Et surtout, l'apnée a aujourd'hui 25 ans d'histoire moderne, avec des compétitions, des records, des champions français, des champions internationaux. Et donc aujourd'hui, un adolescent qui veut se mettre à l'apnée, certes, on va se dire, c'est pas commun, c'est pas comme le foot, le tennis, le basket, mais c'est un peu moins marginal qu'avant.
Tu commences l'activité et tu es guidé par deux mentors, Claude Chapuis, ex-recordman du monde en apnée statique, et puis Loïc Leferme. Ce sont des modèles, des guides, des amis pour toi ?
Claude a vraiment été pour moi, donc Claude Chapuis, le mentor, le maître. Je dirais que j'ai conçu un peu ma progression en grappillant des informations à droite à gauche, mais surtout en étant inspiré et en recevant un enseignement de la part de Claude Chapuis, qui est à l'origine du développement de l'apnée moderne. Donc je lui dois beaucoup, je ne vais pas dire tout, mais en tout cas pas loin de tout, à Claude Chapuis. Et ensuite, il y a Loïc Leferme qui, quand je suis arrivé, était en train de s'entraîner pour battre ses premiers records. Et en fait, moi, je regardais Loïc comme un modèle, un guide que j'avais envie de suivre. Une relation vraiment très profonde d'amitié s'est installée entre Loïc et moi avec les années, où finalement, c'était un conseiller, une source d'inspiration. Et c'est devenu une forme de relation de grand frère. Il m'a apporté sa vision et il m'a apporté beaucoup de soutien, même dans le développement de l'apnée comme un métier, parce que c'était vraiment mon rêve de pouvoir vivre de cette passion-là. Et donc, il m'a vraiment pris par la main dans ce chemin-là. Et on a tous les deux vraiment avancé ensemble en étant l'un et l'autre dans l'équipe d'organisation du record de l'un et de l'autre. Et ça a été une relation vraiment très forte.
Je précise que Loïc Leferme est mort à l'entraînement en 2007 en remontant. Je voudrais maintenant qu'on soit un peu plus pragmatique. Quel est l'entraînement pour devenir meilleur en apnée ?
Alors, il n'y a pas de secret. Pour être meilleur en apnée, il faut faire beaucoup d'apnée. À un moment donné, c'est retenir son souffle et habituer son corps à gérer cette privation d'oxygène va créer et va entraîner des adaptations sur le corps humain. Et donc, il y a tout un tas d'exercices, d'entraînements que l'on peut faire soit à sec, en faisant de ce qu'on appelle l'apnée statique, c'est-à-dire arrêter de respirer sans bouger, en tenant le plus longtemps possible. Donc là, il y a tout un tas de protocoles différents qui existent. Soit on va travailler le volume en faisant plein d'apnées pas très longues, mais répéter avec peu de récupération, ou soit des apnées très poussées, très longues, avec beaucoup de récupération. Évidemment, la majorité du temps, on va s'entraîner en apnée dans l'eau. Dans l'eau, on peut l'entraîner en piscine. Donc en piscine, on va faire de l'apnée dynamique, c'est-à-dire retenir son souffle et nager le plus grand nombre de longueurs dans un bassin en apnée. Et là, pareil, on peut faire des séries de 25 mètres, de 50 mètres, de 100 mètres, selon les qualités physiques que l'on veut développer. Et puis, il y a évidemment l'entraînement en mer. Moi, j'ai toujours privilégié l'apnée en mer parce que je suis né à Nice, parce que j'ai toujours été un amoureux de la mer et des océans, et parce que je me suis orienté très rapidement dans ma carrière sur les records en profondeur. Et donc, ça a été des heures, des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'heures passées en mer, à plonger et à adapter mon corps à cet environnement extrême. Parce que quand on va en profondeur, ce n'est pas qu'une histoire de temps d'apnée, c'est une histoire aussi d'adaptation à un milieu qui est hostile. Et notamment, quand on va très profond, adapter le corps à la pression. Et donc ça demande vraiment beaucoup de patience, beaucoup de temps. C'est pour ça que les apnéistes, en général, arrivent vraiment à leur meilleur niveau passé un certain âge, c'est-à-dire 25, 30 ans, et qu'on peut être vraiment dans l'âge d'or entre 30 et 40 ans, parce que le corps a besoin de beaucoup de temps avant de s'adapter à l'environnement extrême de la grande profondeur. Et à côté de tous ces entraînements en apnée, on a vraiment un travail de préparation physique de sportifs de haut niveau. Et ce sont des entraînements très classiques que l'on peut retrouver dans beaucoup de sports. Moi, par exemple, je fais du vélo. Je vais faire de la préparation physique en musculation, en utilisant le crossfit, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment pour entraîner le muscle à être puissant, endurant, et entraîner le corps à être économe en énergie. Et pour parachever le tout, il faut développer une grande souplesse du corps en faisant des exercices de yoga et de respiration, parce que un corps qui est souple, c'est un corps qui va consommer moins d'énergie et c'est un corps qui va mieux accepter les effets de la pression en grande profondeur.
Et alors Guillaume, on commence à parler de toi, tu as 20 ans, on est en 2002 et tu bats ton premier record du monde, tu descends à 87 mètres de profondeur. Tu te souviens de ce moment-là ?
Alors j'ai un souvenir très précis de ce moment, parce que ça a été un tournant dans ma carrière et même au-delà de ma carrière, de ma vie, parce que c'était l'accomplissement de mon rêve. C'était un rêve qui est né quand j'étais quand j'ai fait mes premières descentes en apnée, quand je regardais ces records de Umberto Pellizzari. Vraiment très vite, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et un jour, je veux battre un record du monde. Un record du monde, ça va au-delà de la dimension sportive. J'ai jamais été attiré par l'idée de gagner un titre de champion du monde.
Et pourtant, tu vas le gagner, le titre de champion du monde aussi.
Je vais le gagner après, par la suite. Mais disons, ce qui vraiment me guidait, parce que ça fait partie de l'ADN de l'apnée, c'est cette idée du record, cette idée d'aller à un endroit et de se dire qu'on est le premier à aller à cette profondeur-là. L'histoire de l'apnée s'est construite au travers des records du monde. Jacques Mayol a battu des records du monde. Il a été le premier homme à 100 mètres. Et vraiment, le développement de notre sport s'est fait au travers des records. Et donc, un jour, pouvoir battre ce record-là, c'était vraiment comme un espèce de Graal. Et c'est arrivé à 20 ans, finalement, assez jeune. Je me rappelle parfaitement de ce jour-là, avec la présence de Loïc Leferme dans l'eau à mes côtés, de Claude Chapuis, qui avait vraiment organisé toute cette préparation et ce record d'une main de maître avec toute mon équipe. Et ils avaient vraiment fait en sorte de me maintenir dans un espèce de cocon pour que je me sente vraiment comme à la maison, dans ma baignoire presque, pour réaliser cette performance. Et au moment où je sors de l'eau, où finalement j'avais plongé avec dans l'esprit vraiment de faire ce que j'avais l'habitude de faire. C'est un record que j'avais déjà réalisé à l'entraînement, puisque ça, c'était la grande philosophie de Claude. C'était tu as 20 ans, c'est ta première tentative. On annonce ce record du monde que si tu le réalises quelques semaines avant, déjà à l'entraînement. Et donc, c'était une répétition de ce que je savais déjà faire. Mais au moment où je sors de l'eau, il y a cette espèce d'exultation, de joie. Il y avait plus d'une centaine de personnes sur l'eau, et ça, c'était inhabituel. Ma famille, mes amis, beaucoup de médias, des caméras. Et là, c'est l'explosion sur l'eau. Et j'ai un souvenir assez précis du sentiment, mais dans ce qu'il me reste des images visuellement, je vois des éclaboussures, je vois des applaudissements, je vois des cris de joie, je vois des fumigènes, je vois une bouteille de champagne qui est ouverte dans l'eau. C'était un bouillonnement sur l'eau. Voilà, c'est ce qui me reste, cette espèce de joie collective. Et c'est vraiment ce qui reste de cette journée extraordinaire.
Ensuite, tu vas battre très régulièrement des records. Tu vas emmagasiner aussi des titres de champion du monde. Pour arriver à ce record à 126 mètres de profondeur en 2015, concrètement, pour descendre 126 mètres et pour remonter, ça dure combien de temps ?
Alors, une apnée en grande profondeur, donc à 126 mètres par exemple, il faut savoir que c'est une... Pas comme dans le Grand Bleu, parce qu'on a souvent l'image du Grand Bleu, où dans le Grand Bleu, on voit les athlètes descendre assistés avec une machine, une gueuse, on appelle ça une gueuse, pour descendre, et avec un ballon pour remonter.
Là, tu descends la force des palmes.
Voilà, moi, je descends de manière totalement autonome. C'est-à-dire que je descends en palmant et je remonte en palmant. Je nage l'ensemble de la distance. Donc, physiquement, c'est beaucoup plus éprouvant. Et donc, ce n'est pas vraiment une histoire de temps, puisque du coup je consomme énormément d'énergie pour arriver en bas et remonter à la surface. C'est vraiment une histoire de chiffres de profondeur. Cependant, évidemment, le temps, on le mesure, c'est une bonne source d'indication. Moi, pour faire l'aller-retour à 126 mètres, je mets environ 3 minutes 20, à savoir 1 minute 50 pour descendre, 1 minute 30 pour remonter. Si j'essaie de retenir mon souffle sans bouger à la surface, en faisant ce qu'on appelle de l'apnée statique, je suis capable de tenir entre 7 et 8 minutes. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes échelles de temps, mais parce que dans la grande profondeur, il y a cet effort pour réaliser l'ensemble de la plongée.
Sachant que le record d'apnée statique, c'est de 11 minutes et 35 secondes, ce qui est absolument considérable. Des informations maintenant, Guillaume, qu'on a envie d'avoir en plongeant virtuellement avec toi. Comment sont tes yeux, ouverts ou fermés?
Alors ça a pas mal changé au cours de ma carrière. Pendant longtemps, je gardais souvent les yeux fermés pour être très concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Et puis avec les années, et donc c'est seulement ces dernières années, j'ai décidé de les réouvrir progressivement, et maintenant je fais quasiment l'intégralité de la descente et de la remontée les yeux ouverts, on va dire mi-clos. Ça ne m'empêche pas d'effectuer ce voyage intérieur et d'être vraiment très connecté à ce qui se passe à l'intérieur, mais j'aime regarder ce spectacle des nuances de bleu qui évoluent au cours de la plongée. Je pars de la surface avec un bleu très, très clair, très lumineux, avec les rayons du soleil qui sont très présents. Et puis au fur et à mesure de la plongée, la lumière va se tamiser pour arriver dans une forme d'obscurité en grande profondeur. Ce n'est pas noir, c'est un bleu très sombre. Et j'aime observer ces changements. J'ai vraiment la sensation d'effectuer un véritable voyage dans un autre monde. C'est assez fascinant. C'est que du bleu, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, mais ça reste un spectacle extraordinaire. Une autre raison pour laquelle je garde des yeux ouverts, c'est qu'en grande profondeur, je suis soumis à un effet physiologique qui s'appelle la narcose, donc l'ivresse des profondeurs, et qui peut me faire perdre un peu de lucidité, qui peut m'amener à avoir des visions, des hallucinations. Et j'ai réalisé, en fait, en gardant les yeux ouverts, je gardais plus facilement un contact avec le réel, et je pouvais avoir un point d'attention en fixant la ligne, le câble le long duquel je descends. Et donc vraiment, je me focalise là-dessus, à la remontée notamment, où je vois ce bleu qui évolue avec comme point d'accroche qui me permet vraiment de rester dans l'instant présent, ici et maintenant, qui est ce câble que je fixe et qui me permet d'être plus concentré.
Qu'est-ce que tu rencontres quand tu es à 126 mètres de profondeur? Quelle faune, quelle flore?
On plonge vraiment dans le grand bleu. Il n'y a aucun repère visuel. Quand j'arrive en bas, je ne vois pas le fond, je ne vois pas la surface, je ne vois pas les bords, je ne vois pas de rochers. Donc c'est une espèce de bleu infini qui est assez fascinant d'ailleurs, ouais. Parce qu'il n'y a nulle part où on peut voir cette unicité dans la vision que l'on a. Partout sur Terre, à un moment donné, si on baisse les yeux vers le sol, on va voir le sol, on va voir la surface terrestre sur laquelle nos pieds reposent. Là, dans cette immensité, il n'y a absolument aucun repère. Et donc, c'est très rare, quand on est au milieu comme ça du bleu, d'avoir la présence de quelques formes de vie qu'il soit. Alors des fois, il y a quelques méduses. On peut avoir sur certaines descentes le passage d'un poisson pélagique. J'ai déjà eu dans les tropiques des visites de requins, par exemple, qui viennent, qui restent assez loin, qui tournent et qui s'en vont. Mais globalement, c'est vraiment l'immensité du bleu qui prédomine.
Est-ce que tu peux décrire, Guillaume, par des mots, l'impact de la pression dans ces hautes profondeurs sur ton corps et sur ton esprit?
La pression, on la ressent essentiellement sur la cage thoracique. On la ressent sur les parties où il y a de l'air. C'est-à-dire que dans les jambes, par exemple, ou dans les bras, qui ne sont composés que de liquide et d'os, on ne ressent pas cette pression physiquement. On ne la ressent pas comme... Il n'y a pas un étau qui serre mes avant-bras, mes mains, pas du tout. Par contre, au niveau des poumons, qui sont remplis d'air, elle est ressentie directement. Et c'est ce volume d'air qu'il y a dans les poumons qui va être comprimé par la pression et qui va entraîner l'écrasement de la cage thoracique. C'est une sensation étrange parce que on a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose de bien plus fort que nous qui s'abat sur nous. Et c'est vraiment le poids de la mer, de l'océan que l'on ressent sur l'ensemble, sur le corps, sur la cage thoracique, et qui va comprimer la cage thoracique et les poumons. Le réflexe de terrien que l'on peut avoir quand on n'a pas l'habitude, quand on débute, c'est de résister, de s'opposer à cette pression. Et en fait, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. La pression, à un moment donné, le seul moyen de bien la vivre et qu'elle devienne agréable, déjà, c'est de beaucoup plonger pour que le corps s'adapte, s'habitue, faire beaucoup d'exercices à l'extérieur pour être le plus souple possible. Et c'est surtout d'accepter et donc de lâcher complètement prise musculairement, physiquement et mentalement. Se laisser totalement écraser par cette pression. Alors à ce moment-là, la pression n'est absolument pas vécue comme une contrainte et comme une douleur, mais comme un élément extérieur qui fait partie de l'équation globale. Et cette pression de l'eau, on peut la ressentir comme quelque chose d'enveloppante, d'agréable même, alors que quand on est très profond, les poumons sont réduits à la taille de deux petites mandarines. Et si on amenait un être humain qui n'est absolument pas adapté et qui n'est pas entraîné, il se déchirerait les poumons, il mourrait d'une hémorragie parce que son corps et ses poumons ne supporteraient pas cette pression, cet afflux de sang qu'il y a autour des poumons en lien avec la pression. Et nous, par l'entraînement, par le relâchement, par ce travail d'adaptation, on arrive à être parfaitement en harmonie, en connexion avec l'océan. Et donc en bas, c'est comme si on se faisait de plus en plus petit et qu'on prenait de moins en moins de place pour laisser l'océan nous accepter. Mmh. Il faut vraiment profondément l'accepter mentalement, cette domination de la nature. Et donc c'est un exercice qui est très intéressant.
Guillaume, peux-tu nous décrire le sentiment de plénitude qui te gagne lorsque tu es dans ces très grandes profondeurs?
Quand j'approche des grandes profondeurs, je suis effectivement envahi d'un sentiment de paix, de calme intérieur, de plénitude, où il n'y a, de manière assez paradoxale, absolument aucune envie de respirer. On a la sensation, c'est une forme d'illusion qu'il y a au niveau du ressenti, au niveau du corps, qu'on est vraiment sous perfusion d'oxygène. Et il y a un véritable bien-être. Mais ce bien-être, on ne peut le ressentir que si on a pris vraiment le temps de progresser, et qu'on est dans une zone de maîtrise et de confort, et qu'on est dans cet état d'esprit d'acceptation et de relâchement total vis-à-vis du milieu extérieur. Et moi, vraiment, la partie que je préfère dans une descente, c'est toute cette phase où je n'ai plus besoin de palmer, puisque mon corps devient lourd, dense, grâce à la pression. Il y a moins de volume d'air dans mes poumons. Or, c'est ce volume d'air-là, par la poussée d'Archimède, qui me fait flotter quand je suis proche de la surface. Et au-delà de 30-40 mètres, je deviens très lourd, très dense. Et là, je peux chuter jusqu'au fond sans faire d'effort. Et donc, c'est un sentiment de liberté qui est extraordinaire, où j'ai l'impression de voler sous l'eau. Je me laisse vraiment totalement happer, entraîner et sans faire aucun effort. Donc dans toute cette fin de la descente, je sens l'eau qui glisse sur le visage et c'est assez grisant parce que on a vraiment la sensation d'être dans un vol spatial vers un autre monde. Et puis quand j'arrive en bas, c'est assez extraordinaire ce paradoxe d'être dans un endroit qui est très hostile et d'être parfaitement en adéquation avec ce milieu, sans avoir aucune envie de respirer, sans être dans la lutte, sans être dans l'opposition. Et là, c'est court, hein, c'est très très court, mais c'est un moment effectivement qui est assez extatique.
À travers ton récit, on est avec toi, on est descendu avec toi dans les grandes profondeurs, et on remonte parce que en 2015, la même année que ce record à moins 126 mètres, tu veux aller encore plus bas. Et tu décides à Chypre de descendre à moins 129 mètres. Mais là, ce qui paraît totalement impensable arrive, les organisateurs se trompent de 10 mètres et placent la limite à moins 139 mètres. Et forcément, tu descends plus bas, donc tu restes plus longtemps, tu fais plus d'efforts. Et en remontant, les images sont saisissantes. à un bout d'un moment, tu es sans force, tu n'arrives plus à palmer, tu perds connaissance. Raconte-nous comment ça a pu se produire et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là avant de perdre connaissance ?
Je fais cette plongée à 126 mètres qui était mon record personnel, qui me rapprochait à 2 mètres du record du monde qui était à l'époque à 128 mètres. Et cette plongée des 126, c'est vraiment passé dans un tel niveau de maîtrise que je me suis senti prêt, 2 jours après, pour annoncer ce record du monde. Donc ça, c'était une 5e tentative de record du monde. Hein. Si je l'avais validé, ça aurait été un 5e record du monde. Et donc pour valider un record, il faut faire 1 mètre de plus que le précédent. Et donc, je décide d'annoncer 129 mètres, qui est 1 mètre de plus que le record qui était à l'époque détenu par le russe Alexei Molchanov à 128 mètres. Je suis assez confiant dans la réussite de cette tentative. En apnée, il y a une particularité, c'est que l'on annonce, que ce soit en compétition ou en record, la profondeur que l'on veut tenter, et que le câble va être descendu à la profondeur exacte qui est annoncée. Ça permet pendant la descente de ne pas se poser de questions. Jamais en bas, je peux me dire « Ah tiens, finalement, je suis un peu mieux que prévu, je vais aller plus bas. » C'est pas possible. Ce n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité. Donc la profondeur que l'on annonce, elle est mûrement réfléchie. On va en bas et on remonte. Bien sûr, si pendant la descente, je me sens absolument pas bien, je peux très bien décider d'arrêter et de remonter. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, je pars sur cette plongée à 129 mètres et la descente se passe vraiment comme prévu. Quand je regarde les images de moi en train de descendre, je vois que la technique était parfaite. Mais il y a juste un moment proche de la fin où je me dis « C'est bizarre, c'est un peu long quand même. C'est un peu long. » Mais jamais me traverse l'esprit l'idée que le câble n'est pas réglé à la bonne profondeur. Je me dis juste que l'effet de l'ivresse des profondeurs perturbe un peu ma perception proche du fond. Je me dis que peut-être il y a un petit peu de courant, parce que j'avais vu qu'il y avait un poil de courant avant de plonger, et donc que ça m'a peut-être un petit peu ralenti par rapport à d'habitude. Je me dis aussi, tout simplement, que je descends à une profondeur à laquelle je ne suis jamais allé. Donc forcément, c'est normal que ça me paraisse plus long que d'habitude. Mais là, à un moment donné, je me dis, c'est quand même vraiment long. Je lève la tête, chose que je ne fais normalement jamais. Normalement, je garde la tête alignée. Je ne cherche pas à voir le bout du fil. J'arrive, je me fais presque surprendre par le fond. Et là, je lève la tête et je vois que c'est à quelques mètres plus bas. Je me dis, ah bon, bah, c'est bon, je suis presque arrivé, j'y vais. Et puis, j'arrive en bas. Je sens que la pression, j'ai l'impression que c'est un peu plus fort que d'habitude. Mais je me dis, bah oui, c'est normal, hein, c'est un nouveau record. Et puis, il y a peut-être un peu de stress, un peu de tension. Donc, rien d'alarmant. Je prends la petite plaquette parce qu'on doit ramener du fond une petite plaquette témoin qui permet d'attester auprès des juges que l'on est bien arrivé au fond. Et puis j'entame ma remontée en étant dans un état d'esprit très calme, en me disant que j'ai réalisé la moitié du parcours, ce qui est déjà bien hein, d'être arrivé au fond, mais que le plus dur reste à faire, la remontée. Et puis après, là, c'est un peu compliqué pour moi de vous raconter ce qui se passe parce qu'en fait, quand on fait une syncope et qu'on perd connaissance, on va perdre un peu la mémoire de la dernière minute qui précède l'accident. Donc ce que je peux vous raconter a posteriori en ayant vu les images, c'est que je suis remonté à une vitesse à peu près normale et en respectant ce que j'ai l'habitude de faire jusqu'à environ une quarantaine de mètres de la surface. Et qu'arrivé à 40 mètres de la surface, bah sans le savoir, j'avais en fait effectué 10 mètres de plus à la descente et 10 mètres de plus à la remontée. Et donc du coup, en théorie, j'aurais dû me retrouver dans les 20 derniers mètres où je peux commencer à ralentir le palmage, où la poussée d'Archimède me permet de retrouver mon volume d'air dans les poumons, où je peux remonter avec un peu plus d'aisance. Et là, en fait, bah, je suis toujours à 40 mètres et c'est encore dur. C'est encore difficile. Et donc je pense que là, à ce moment-là, j'ai dû commencer à manquer un peu d'énergie. Et comme je suis très entraîné, bah, j'ai quand même pu continuer à palmer à 30 mètres. Et là, effectivement, j'ai plus d'énergie. J'ai plus rien. Et je suis à la fois au bord de l'épuisement, mais en même temps dans l'attente de la surface, puisque je lève la tête pour regarder où est la surface. Chose, là aussi, que je ne fais jamais en temps normal. Et puis, à un moment donné, on sent que les mouvements deviennent de plus en plus mous, qu'il y a quasiment aucune amplitude. Et puis je commence à 12-13 mètres de la surface à cracher de l'air, ce qui n'est pas normal du tout. Et à une dizaine de mètres, d'arriver, je commence à avoir quelques convulsions, je recrache mon air, et à exactement 9 mètres de la surface, je perds connaissance. Et donc là, là je dois ma survie aux apnées de sécurité qui sont là. Il faut savoir que c'est la règle numéro un fondamentale dans toutes les pratiques de l'apnée, que l'on fasse un record du monde, que l'on fasse un championnat du monde, ou que l'on aille faire une petite apnée plaisir avec les copains, il ne faut jamais être seul. Absolument jamais être seul. Pourquoi ? Parce que le risque là de perte de connaissance, c'est le risque majeur en apnée. Évidemment, c'est un risque qui est plus important quand on bat un record du monde que quand on va s'amuser sur peu de profondeur. Mais il y a toujours ce risque à un moment donné de vouloir forcer, de vouloir aller jouer avec ses limites. Mmh. Et si on pousse trop loin ses limites, on peut perdre connaissance. Et quand on perd connaissance, on n'a plus contrôle sur rien. Et là, on peut se noyer. Et donc, à 9 mètres de la surface, les apnées de sécurité me récupèrent, me remontent. Et là, une fois que l'on est remonté à la surface, le danger majeur est écarté. Je mets quelques secondes, là ça dure un peu plus longtemps que d'habitude, pour revenir à moi. Puis quand je reviens à moi, donc je suis dans un état d'hypoxie, donc de manque d'oxygène qui est terrible. Hein. Je viens de battre un record du monde, mais avec 10 mètres en plus. Mais là où ça aurait pu être très compliqué, c'est que je fais un œdème pulmonaire en même temps. L'œdème pulmonaire, il est lié à quoi ? Il est lié au fait que mon corps est allé 10 mètres de plus que ce qu'il aurait dû aller et que je n'étais pas adapté à cette pression énorme supplémentaire que j'ai dû accepter, que j'ai dû endurer même, je dirais. Et donc, il y a un peu de sang qui est passé dans les poumons. Ça empêche les échanges de se faire. Ça m'empêche de bien récupérer quand je commence à respirer. Et donc, la combinaison de cet œdème pulmonaire et de la syncope aurait pu être dramatique et aurait pu être fatale. Il se trouve que j'ai été assez bien pris en charge, que j'étais très entraîné et que finalement je suis revenu à moi, non sans douleur. Hein, je sentais cet œdème dans les poumons, je crachais du sang en respirant. On m'a mis de l'oxygène pur avec de l'oxygène médical sur le visage pour que je récupère plus rapidement. Et là, les premières secondes, les premières minutes où je reviens à moi, c'était vraiment l'incompréhension totale. Je ne peux pas comprendre à ce moment-là comment... Deux jours avant, je fais 126 mètres, ce qui est finalement que 3 mètres de différence, en étant aussi bien avec une si grande maîtrise. Et comment, deux jours après, je peux faire cet accident que j'imagine très grave. Je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas que j'ai fait une syncope à 10 mètres ou à 15 mètres ou à la surface. Je sais juste que ça a été violent. Je sais que je crache du sang et que j'ai l'impression d'être un miraculé. Ouais. Et au bout de quelques minutes... Eh bien, en fait, le câble est mesuré, c'est un sport qui est encore très amateur, le câble est mesuré et marqué avec des bouts de scotch. Il y a une espèce de code, un marquage qui est codé, et puis il y a un bout de scotch qui s'était enlevé, et donc du coup, il y a eu une erreur d'une dizaine, parce qu'en général, les erreurs, quand elles se font par dizaines. Alors, c'était jamais arrivé sur des compétitions de cette importance-là, et voilà, ça arrivait un jour de record du monde.
Mais comment une telle erreur a pu se produire ?
En fait, personne ne l'a réalisé sur le moment. Il a fallu que moi, quand je reviens vraiment à moi, alors que j'étais dépité, je me suis dit, c'est pas possible. Je croyais être dans la maîtrise totale de mon élément. Et là, ben non, je fais un accident qui est très grave, là où je pensais être capable de le faire. Et donc, je regarde mes instruments de mesure. Je plonge avec un profondimètre en général, même à chaque fois, qui me donne le temps de plonger, la profondeur. Et donc, je veux regarder mon temps de plongée. Je me dis, normalement... ça aurait dû être une plongée de 3 minutes 25, 3 minutes 30 maximum. Et là, je vois écrit 3 minutes 55. Déjà, je me dis, oula, il y a un truc qui cloche. Et ensuite, je regarde la profondeur, et là, je vois écrit 139 mètres. Et sur le coup, j'y crois même pas. C'est-à-dire que je pense que c'est une erreur électronique. Je n'imagine même pas encore à ce stade que ça a pu être une erreur. Et là, tout d'un coup, je regarde les organisateurs, et je vois que tout le monde se met à comprendre, en fait, au même moment ce qui s'est passé. Et là, je réalise, en fait, la grave erreur qui vient d'être commise. Et mon premier sentiment, c'est drôle hein, quand j'y repense, c'était le soulagement. j'ai pu mettre une cause à cet accident et à la gravité de l'accident. Parce que juste avant, c'était le désespoir, non pas lié à l'échec, mais le désespoir lié à mon incompréhension de la gravité de l'accident.
Tu te rends compte que tu as failli peut-être pulvériser de manière incroyable un record de près de 11 mètres si tu avais réussi à cause de cette erreur.
Ouais, bon là je me dis même pas ça parce que je pense que ça n'aurait pas pu être possible de toute façon. J'essaie toujours de faire la comparaison avec d'autres sports. C'est à peu près une erreur de 10%, plus ou moins. Prenons n'importe quel record du monde, dans n'importe quelle discipline, et on y ajoute 10%,
ouais.
On se rend compte que c'est absolument infaisable. Les records du monde en saut à la perche, aujourd'hui c'est 6,17 m, on rajoute 10%, on arrive à 6,70 m. On se dit bien que, on ne sait même pas si ça va pouvoir être réalisé un jour, peut-être, mais en tout cas, pas du jour au lendemain. Le record du Usain Bolt, c'est pareil, hein, 9,58, on prend 10%, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Et donc, peut-être que s'il y avait eu une erreur de quelques mètres, 3 mètres, 4 mètres. J'avais une telle marge de sous le pied que j'aurais peut-être pu réussir. Ils auraient mis 132, 133 mètres. Je pense que ça serait passé un peu juste là. Alors là, ça aurait été sacré exploit. 139, impossible.
Est-ce que cet accident, est-ce que le fait d'être passé tout près du drame, ça a tempéré tes ardeurs? Je ne parle pas au niveau de l'apnée, mais au niveau de cette quête de record.
Complètement. Très rapidement, je dirais même dans les minutes qui ont suivi l'accident, je me suis dit, ça y est, basta, j'arrête. J'arrête les records, j'arrête cette quête du petit mètre supplémentaire. Dans un premier temps, c'était assez brutal comme arrêt. C'est-à-dire, je voulais arrêter toute forme d'apnée profonde, tout rapport à la compétition. Ensuite, assez vite, je me suis dit, j'aime la profondeur. J'aime ce que je vais chercher profond. Quand je dis profond, en général, c'est au-delà de 100 mètres. Mais c'est vrai que le petit mètre de plus dans cette zone extrême du record, ça par contre, je pense en avoir fait le tour. Et donc, je laisse reposer pendant 2 ans, 3 ans et je fais un retour à la compétition en 2018 où je retourne dans la zone des 100 mètres et je prends beaucoup de plaisir à me réentraîner dans cette zone-là. Et ça, ça a été un tournant pour moi en 2015. Qui m'a fait prendre une distance avec cette quête des records.
Alors Guillaume, tu veux aussi démocratiser ta discipline et j'ai envie de dire que tu te transformes un peu en chorégraphe de l'apnée. Et tu avais déjà commencé précédemment en 2010. Je vous invite vraiment, vous qui écoutez en ce moment même Guillaume Néry, à aller voir ce film exceptionnel intitulé Free Fall, tourné aux Bahamas, réalisé par une apnéiste, Julie Gauthier, où là, ben, j'ai l'impression que tu es en chute libre et tu te précipites dans le Deep Blue Hole, ce trou au milieu de l'océan.
Oui, effectivement, ce film a été un véritable tournant pour moi. On a tourné ces images de manière très amateur, sans imaginer l'impact qu'allait avoir ce film derrière. L'idée, c'était de raconter l'apnée d'une autre manière qu'au travers du partage de performances et de records.
Raconte-nous ce qui se passe à ce moment-là, quand tu marches dans le sable à une faible profondeur et que tu te jettes finalement un peu comme le ferait un spécialiste de parachutisme en partant d'un avion en chute libre.
Ce film, c'est un peu une métaphore. Hein. C'était la métaphore du saut dans l'inconnu qu'un apnéiste réalise quand il plonge dans les grandes profondeurs. Ce trou bleu, c'est le trou bleu le plus profond du monde. C'est un décor assez exceptionnel. Souvent, je dis que le héros du film, c'est pas moi, c'est le trou. C'est cette espèce de merveille de la nature que l'on a pris comme décor. Et en réalité, le synopsis du film, il est très simple. Hein. C'est un homme qui a un véritable comportement d'humain. Et c'était très important pour moi de ne pas être un plongeur ou un nageur, d'être un humain. Donc je marche, je m'approche de ce trou, je m'arrête, je le contemple, j'hésite. Et puis à un moment donné, je saute et je m'envole.
On précise que quand tu dis « je marche », tu marches en étant complètement immergé, c'est-à-dire déjà en apnée.
Tout à fait. Je suis sous l'eau, je suis en apnée. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir d'amener des comportements de terrien dans le monde aquatique pour rapprocher l'humain du monde sous-marin et puis pour acquérir une forme de liberté sous l'eau. Parce que quand on est sous l'eau, on est beaucoup plus léger. Et donc, moi, j'ai pu réaliser au travers de ce film cette espèce de fantasme de voler. J'ai toujours rêvé de voler dans les airs. Et bien là, j'ai pu voler sous l'eau. Et donc, je marche, je m'arrête, je suis sous l'eau, je contemple le trou et puis à un moment donné, je prends mon envol, je saute. Et puis, à la manière d'un base jumper, je plonge et puis je vole les bras en arrière et je descends dans cette espèce de gouffre noir qui est très impressionnant. Et je m'arrête, je contemple ce qu'il y a autour de moi, puis je décide de remonter. Et comme c'est l'idée vraiment première, c'était de ne pas avoir de comportement de nageur ou de plongeur, ben je décide de remonter en grimpant le long de la paroi, un peu comme Spider-Man. Et voilà, et on avait en 4 après-midi tourné ces images-là, on les a montées de manière très amateur. puis on le diffuse sur Internet, sur YouTube. C'était le début des réseaux sociaux. Je le partage sur Facebook, vraiment sans faire rien d'autre que poster brut tel quel. Et puis là, de manière complètement incompréhensible, le film devient viral et partagé sur toutes les plateformes, toutes les communautés. Et le film échappe complètement à notre contrôle. Et ça a été le début, ça a été le début d'une, voilà, d'un autre aspect de ma carrière, moi, qui est de raconter des histoires sous l'eau, qui est d'écrire des scénarios de courts-métrages.
Alors Guillaume, si Free Fall est un succès, que dire du clip Running de Beyoncé en 2015, où là, eh bien, tu es le personnage principal et où tu réalises littéralement une chorégraphie de danseurs étoiles sous-marins en jean. Ça a été vu des centaines de millions de fois. Mais tu pensais, en débutant l'apnée, qu'un jour tu serais face à Beyoncé? Raconte-nous cette expérience.
Au début, il n'y avait pas Beyoncé dans l'histoire. C'était un clip pour Naughty Boy, qui est un DJ britannique, qui était déjà très connu, hein, dont le dernier clip venait de réaliser 500 millions de vues. Et donc, on nous propose de réaliser le clip de son prochain titre. On est en concurrence face à 30 autres projets et c'est le nôtre qui est retenu. Et donc, on tourne ces images en Polynésie. C'est dans la passe de Tiputa, sur l'atoll de Rangiroa, en Polynésie française. Un endroit qui est assez extraordinaire parce qu'il y a un courant colossal qui permet de créer cette espèce d'illusion d'être en gravité et d'avancer sans faire aucun mouvement. Et donc on fait ces images, je suis en duo sous l'eau avec une championne d'apnée française qui s'appelle Alice Modolo. On réalise une chorégraphie ensemble. Le clip est tourné et puis à un mois de la sortie, on apprend que Beyoncé est tombé sur cette histoire. Alors on ne sait pas si ce sont les images qui l'ont amené à rejoindre le projet ou si c'est juste la chanson, mais en tout cas, on apprend que Beyoncé a posé sa voix sur ce titre. À la base, elle ne devait pas être présente. Et c'est un peu la surprise pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce clip pour Beyoncé, mais c'est Beyoncé qui a rejoint l'aventure, et donc évidemment, pour nous, c'était extraordinaire d'avoir la présence de cet artiste de renommée internationale.
Tu l'as rencontrée ?
Absolument pas, on ne l'a pas rencontrée, on n'a même jamais échangé avec elle. Le seul contact qu'on a eu, c'est le jour où elle a posté la vidéo sans commentaire. Et ça s'est arrêté là. C'était un honneur et un privilège pour nous de pouvoir avoir la voix de Beyoncé sur des images que l'on avait réalisées. Donc, c'était une expérience extraordinaire. Et il y a plein de gens qui se sont imaginés que ce film-là, ça a assuré ma retraite et que j'ai gagné des millions d'euros. Je l'ai fait, on va dire, presque gratuitement, ce projet-là. Je l'aurais fait même en payant presque pour pouvoir collaborer avec une artiste de...
Et il faut demander des royalties à Beyoncé maintenant, hein.
Non, bah ça marche pas comme ça dans le monde du clip. Dans le monde du clip vidéo, il y a absolument plus du tout d'argent et c'était absolument pas la motivation, mais en tout cas, c'est une très belle carte de visite.
Guillaume, on sent en tout cas que ta nouvelle philosophie au niveau de l'apnée, elle est beaucoup plus contemplative. Et puis, tu veux aussi, alors que tu as 38 ans aujourd'hui, avoir un rôle peut-être encore plus citoyen, encore plus militant pour l'élément qui t'a permis de te construire, à savoir l'océan. Et c'est pour ça que tu as tourné un film en Polynésie, à Moréa, très exactement, intitulé « Le souffle de l'océan ». C'est quoi ? C'est un signal d'alarme pour dire « Attention, les océans sont en danger ».
Ce film, Le souffle de l'océan, c'est une forme de plaidoyer pour cet endroit, le Pacifique. Moi, je suis tombé amoureux aussi du Pacifique et notamment de cet archipel en Polynésie et notamment de cette île à Moréa. Et donc, il y a vraiment eu la volonté de montrer la beauté, mais aussi la fragilité de cet endroit, de ce petit bijou que sont les récifs coralliens dans le Pacifique. Et surtout, au travers de mon regard, d'aller rencontrer tous les gens qui œuvrent pour la préservation, la sauvegarde de cet environnement. Et aujourd'hui, oui, c'est un énième cri d'alerte, parce que aujourd'hui, il faudrait être sourd et aveugle pour ignorer ce qui se passe au niveau de notre environnement, au niveau de la nature en général et au niveau des océans. Je n'ai pas la prétention d'être le porte-drapeau et d'être le premier qui amène au grand public le drame qui est en train de se jouer au niveau des océans, mais c'est un témoignage de plus. Et aujourd'hui, je le considère comme étant une de mes missions, effectivement, de me battre pour sauver ce qu'il reste à sauver des océans qui sont en réel danger. Et je suis aujourd'hui très grave par rapport à cette situation. Et j'utilise vraiment tous les moyens qui sont en mes pouvoirs. Et aujourd'hui, je pense que l'art, l'image, le texte, le témoignage, le récit sont une arme qui est forte. Et j'essaie de la mettre au service du plus grand nombre, de faire passer tout ce que je peux faire passer auprès du grand public. On a besoin de tous, on a besoin de la science. On a besoin de l'image, on a besoin de l'art, et je pense que tous ces moyens peuvent marcher ensemble, combinés pour pouvoir faire quelque chose pour limiter la catastrophe.
Pour conclure, Guillaume, est-ce que tu dirais que l'apnée en mer, c'est le plus bel espace de liberté ?
Sans aucun doute, la mer et l'océan, c'est l'élément sur Terre qui offre le moins de résistance et le moins d'obstacles. C'est là où on peut avoir la vision, l'horizon le plus lointain. Pour les navigateurs, la mer et l'océan, c'est l'incarnation de la liberté. Avec un bateau, on peut aller absolument partout. Et il n'y a aucune limitation dans les directions que l'on peut prendre. Et moi, en tant qu'apnéiste, en tant que plongeur, c'est ma liberté dans la verticalité. Le bateau, c'est la liberté à l'horizontale. Et moi, quand je retiens mon souffle et que je plonge, il y a un espace de liberté dans toutes les dimensions de l'espace. Et c'est là la dimension supplémentaire que je vais conquérir en plongeant, que l'on n'a pas quand on est un navigateur. Sur la mer, on navigue en deux dimensions. Sous l'eau, je suis en trois dimensions. Pour moi, la plongée en apnée est vraiment l'incarnation de la liberté absolue. La liberté aussi de plonger en étant à nu, puisque j'ai besoin de rien pour réaliser ces plongées. Il n'y a aucune technologie. Je ne dépends de rien d'autre que de mon corps et de ma propre autonomie. Celui qui est libre, c'est celui qui n'a pas grand-chose. Et moins on possède, plus on est libre. Et moi, quand je plonge, finalement, je possède qu'une seule chose, c'est mon inspiration et c'est cette réserve d'air que j'ai avec moi. Alors oui, j'ai besoin d'un masque, j'ai besoin d'un maillot de bain, mais ce n'est pas grand-chose finalement. Et je peux expérimenter la sensation de l'apesanteur. Je peux être en suspension dans l'élément. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire. C'est un espace de liberté infini qui est devant chez moi. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça incarne toutes ces valeurs-là. La simplicité, la sobriété, le dépouillement et cette liberté absolue qu'offre le monde marin.
Bientôt, je crois que les navigateurs vont te contredire, Guillaume, parce qu'ils seront comme toi dans trois dimensions, puisque tu sais que leurs bateaux, grâce aux foils, sont en train de commencer à voler. Mais on n'en est pas totalement là. En tout cas, merci infiniment, Guillaume, pour ces belles descriptions, pour ce joli message d'espoir. Et j'ai envie de te dire, pour conclure, que je retiens mon souffle et que j'ai envie de t'accompagner, pas à 100 mètres, mais ne serait-ce qu'à quelques mètres de profondeur pour ressentir ce que tu viens de nous décrire.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.